Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Périgord littéraire. Alors, nous allons continuer cette semaine l'ouvrage de Madame Martin Dutheil, Silhouette et documents du XVIIIe siècle, Martinique, Périgord, Lyonnais et Île-de-France. Alors, tout ça, bien sûr, relié au Périgord. Alors, ce livre a été, que j'ai sous les yeux, il a été imprimé à Périgueux par l'imprimerie commerciale et administrative qui se situait, je ne sais pas, ça y est toujours, 1 bis rue Victor Hugo à 1932. Et ce livre, il est dédié à sa fille, voici ce qu'elle dit, faire revivre des existences utiles ou aventureuses, encore inconnues du public, en plaçant les personnages dans leur cadre et dans leur temps. Tel est le but de cet ouvrage, de précieux concours et encouragements me sont venus, donc je remercie pleinement les auteurs. Alors, je précise qu'elle est quand même lauréate de l'Académie française, et voici ce qu'elle nous dit dans un petit préambule. Ce livre, qui me demanda 25 ans de recherche et d'études, paru en 1932, a obtenu en 1933 une médaille de bronze à Société d'encouragement Auberde, dans la section littéraire du Trocadéro, en juillet 1933, et un prix en 1934. Une nouvelle édition paraîtra vers 1937 pour la première partie. Voilà, alors bien sûr, on va continuer à s'intéresser à Henri de Bertheil. Il y a d'autres personnages qui sont évoqués dans ce livre, mais on va continuer. Henri de Bertheil, alors je préciserai qu'Henri de Bertheil est né à Périgueux en mars 1720, et il est le cinquième de 14 enfants. Il fera des études de droit à Bordeaux et sera intendant du Lyonnais, lieutenant général de la police à Paris, puis contrôleur général des finances. Voilà, alors donc on va poursuivre un peu sa vie. Donc il est en quelque sorte un peu le ministre des Finances de Louis XV. Mais bien sûr, Madame de Pompadour, va se mêler un peu de tout ça. Alors voilà ce qu'on nous dit dans la page 83 de ce livre. Homme droit et sage, a écrit de lui l'avocat Moreau, issu au milieu des détresses de nos finances, rétablir peu à peu le crédit et remettre nos effets publics au pair de l'argent, niveau qu'en pleine paix, ils n'ont jamais repris depuis. Alors c'est tiré d'un livre, Mes souvenirs, donc de Moreau. Alors puis sa France, en 16 heures, je continue la lecture, je vais emprunter bien sûr de larges passages à cet ouvrage. Alors puis la France, en 16 heures critiques, trouvait toujours un Bertheil. Une légende a représenté Bertheil comme une créature de Madame de Pompadour, et certains ont regardé la favorite comme l'instrument de sa fortune, mais il n'en est rien. Il est vrai seulement que la marquise connaissait les Bertheil de Languedoc, de père d'abord, le fils ensuite, mais ils lui rendirent toujours beaucoup plus de services qu'elle n'en reçurent. En retour, elle leur donna constamment des marques de bienveillance. Et M.G. Bussière, qui est notre compatriote, qui a étudié les Bertheil dans un esprit critique les plus rigoureux, a vu d'en avoir trouvé aucune raison que celui-ci. Par leur situation, ils étaient des hommes que la marquise tenait à se ménager. Il cite ces lignes de Madame du Haussé. Il y avait deux personnages qui avaient toujours une grande part à la confiance de Madame, le lieutenant de police et l'intendant des postes. Alors, Madame du Haussé, c'était la femme de chambre de Madame de Pompadour. Voilà. Et donc, elle a écrit bien sûr ses mémoires qui ont paru en 1824. Alors, cependant, Henri de Bertheil savait résister aux volontés de la puissante dame. Il était même intransigeant quand il est jugé contraire au bien de l'État. Elle traduisit un jour son dépit en ses paroles. C'est un petit homme qu'il est impossible de maîtriser lorsqu'on le contrarie. Il n'a qu'un mot à la bouche. Si ça ne vous convient pas, je m'en vais. Voilà. Peut-être une bonne solution aussi. Alors, quoique très prodigue et ne voyant que gloire à favoriser les arts et les plaisirs à entretenir pour ses résidences, une armée de sculpteurs et d'artistes, Madame de Pompadour, fit à Bertheil un certain nombre de concessions. Elle résolut de le soutenir dans ses projets de réforme fiscale contre Choiseul, contre la Cour, et Monsieur de Noyac a récemment souligné le fait. La diplomatie de la marquise, écrit-il, avait souvent à les mettre d'accord. Choiseul comptait bien user un honnête homme qui prétendait médiocre à le culbuter comme il avait fait pour Bernice. La reconnaissance de la marquise et après elle celle du roi gardèrent en place bon serviteur qui maintient les finances royales au moment les plus critiques. Évidemment, il y aura la guerre de 7 ans qui fut assez destructrice pour les finances et pour le royaume de France. Alors, ça s'est tiré des mémoires de Madame du Haussé, femme de chambre dans un Pompadour, voilà, comme on l'a dit. Et puis, bien sûr, ça va. Et ben, on va continuer. Alors, la diplomatie de la marquise, écrivait-il, avait souvent à les mettre d'accord. Donc, comme je viens de le dire, que Choiseul comptait bien user un honnête homme qui prétendait médiocre. Alors, il existe à la Bibliothèque nationale une collection de lettres de Madame de Pompadour à Bertin. Monsieur Bussière, chercheur périgourdin, s'est déjà demandé, il y a 30 ans, si l'on pouvait y trouver trace d'une liaison amoureuse. Malgré l'acuité de ses observations, il n'a pu conclure qu'à une très grande amitié. Mais elle raffolait du ministre, dit-il, elle le flatte, le complimente, le morigène, tout retour. Elle entretient les affaires de l'État et des siennes propres. La démo caressant pour terminer ses billets. Bonsoir, mon contrôleur, ou bonsoir, mon contrôleur à moi. Quoique usé et flétri à 40 ans, la coquette emploie pour écrire à Bertin un cachet spécial représentant l'hôtel de l'amour. Deux initiales juxtaposées, PB se détache sur le fond et on lit en bas le millésime 1761. Mais, monsieur Bussière croit que ce cachet n'a servi que pour Bertin et que par ses avances, elle pensait le circonvenir. Quoi qu'il en soit, le ministre possédait un appui plus solide encore dans l'amitié du roi. Monsieur de Choiseul dit des mémoires du temps disputé auprès du roi qui ne l'aimait pas, le crédit de monsieur Bertin que le roi aimait. Alors, il y a bien sûr des témoignages de l'époque. Monsieur Bertin était le ministre le plus goûté du roi par suite de l'analogie de son esprit avec celui de sa majesté. Elle se trouvait à l'aise, ces personnages qui ne déployaient pas trop de lumière et que lui imposait pas, pour ainsi dire, une politique trop profonde et trop raffinée. Un mot qui avait de l'uni, de la bonhomie dans les idées et les discours qu'à Louis avait appris du cardinal de Fleury à faire plus de cas du bon sens que du génie. Et c'est ce que mit M. Bertin si en avant dans l'intimité de Louis XV. Alors bien sûr, c'était tiré des mémoires d'Hippolyte de Saint-Chamond. Alors, l'hostilité, mais enfin malgré tout, il y a quand même une opposition, hein. L'hostilité des parlements contre une mesure fiscale proposée par Bertin menant à la chute de celui-ci en décembre 1763. Elle tombe du contrôle, non sans gloire, après avoir montré de la fermeté. Il était resté 4 ans aux finances dans des circonstances difficiles. Une fois la paix faite, comme il l'avait prévu, il remue sa démission à Saint-Florentin. Le roi ne voulut point le laisser aller et chercha et trouva moyen de le garder près de lui, existait ordinairement sous les Bourbons, ses ministres. Alors, et puis il y a ce qui fait bien sûr une demi-douzaine en tout, c'est facile à calculer. Ces divers personnages se réunissaient officiellement chaque quinzaine au conseil des dépêches présidé par le roi et se répartissaient ensuite les autres affaires. Alors, Bertin ayant été promu ministre d'État le 6 novembre 1762, occupait donc les hautes sphères gouvernementales. Louis XV lui conserva son titre et plaça sous sa direction certaines parties d'administration intérieure qui jusque-là relevaient du contrôle. Alors, il y a eu les mines, les rades, les manufactures, l'agriculture, le commerce, la navigation fluviale et le dépôt naissant des archives. Ce fut un dédoublement du ministère des Finances. Dans un temps aussi ministre suffisait la France, le témoignage était flatteur, bien que quand même un peu inusité. Alors on va continuer un peu ce livre. Alors, on appela bien sûr ce département le petit ministère. Les chansonniers s'en mêlèrent. En France peut-on passer de chansons. À Noël, 15 jours avant ce remaniement, parut une pièce satirique sur les événements. Chaque ministre eut une pièce, un couplet, menu monnaie du pouvoir. Alors celui de Bertin, qui vient après celui du duc de Pralin, sans être bien méchant, est assez malicieux et les ministres sont censés être en visite à la crèche en approche de Noël. Alors Pralin dit « toute affaire est de l'hébreu pour moi, ils m'ont mis au ministère sans savoir pourquoi ». Alors ensuite, concernant Bertin, ne se sentant pas d'aise, Bertin dit en entrant « qu'on me donne une chaise, je bercerai l'enfant ». Je suis ministre en pied, mais je n'ai rien à faire. Et pour occuper mes loisirs, Seigneur, je viens vous offrir mon petit ministère. Voilà, les gens avaient quand même de l'humour au XVIIIe siècle. Voilà, alors, Bertin, bien sûr, va continuer à s'occuper de pas mal de choses. Et il a un regard vers la Chine. On se souvient que Bertin, jeune maître des requêtes, avait occupé s'était occupé de la Compagnie des Indes, était-ce une particularité qu'il dut avoir les yeux tournés vers l'Extrême-Orient, qui pourra le dire. Mais il est en fait, ce ministre s'intéressa vivement au peuple chinois. Il fut l'initiateur de la correspondance avec la Chine, œuvre considérable, publiée en 15 volumes et destinée à faire connaître en France les mœurs des Chinois, avec le concours des missionnaires et des explorateurs. Nous étions en 1757, année qui eut pu donner naissance à un mouvement très important pour nous, chez les Fils du Ciel. Mais bien sûr, il va y avoir les jésuites qui ont eu une mission florissante et opéré un grand nombre de conversions. Et il y aura bien sûr quelques problèmes d'intérêt. Alors il y a aussi quelque chose qu'on lui doit, et plus particulièrement ce sont les sociétés d'agriculture. L'œuvre maîtresse de Bertin, celle qui lui mérite une place à part dans les cœurs français, ce sont les sociétés d'agriculture. Bertin était de naissance et par principe un terrien, un agronome, et de plus disciple de Vincent de Gournay comme contrôleur général. Il avait fait rattacher l'agriculture à son département et la garda. Il en fut ainsi le premier ministre de l'agriculture des temps modernes. Il donna des instructions très précises aux intendants pour signaler des modifications utiles, pour éclairer les cultivateurs sur les procédés susceptibles d'augmenter leur récolte, établissant un comité à Paris. Pour ces questions, il s'occupa de provoquer des sociétés d'agriculture dans chaque province et les regroupa entre elles par un réseau solide. Cette situation venait à son heure. La France, appauvrie par une série de mauvaises récoltes, perdait au loin de riches colonies. Il s'agissait de trouver des compensateurs pour l'État et des ressources pour les particuliers. Voilà, alors bien sûr, c'est tiré de l'histoire des sociétés nationales d'agriculture par Louis de Passy de l'Institut, avec en tête une gravure représentant Bertin. Alors, dans les statuts, on y lut les statuts et les membres présents déclarèrent accepter. Voltaire va s'en mêler, fit paraître le lendemain une épître sur l'événement et passant en revue les principaux agricoles, il écrit, oh, sans trop être méchant pour une fois, il écrit Bertin qui dans son roi voit toujours sa patrie, porte un bras secourable à la noble industrie, c'est-à-dire les chambres d'agriculture. Voilà, alors bien sûr on va continuer un petit peu. Bien sûr, il va connaître beaucoup de monde. Il y a Lavoisier, qui était membre de l'Académie des sciences. Il y rencontrait Lavoisier, jeune chimiste de ses amis. Leurs relations révélèrent un Bertin encore ignoré, celui de l'instruction publique. C'est Bertin qui chargea Lavoisier d'accompagner le naturaliste, comme je disais, en Lorraine, en Alsace, pour établir un Alsace minéralogique de ces provinces. Voilà. Donc Bertin il va y avoir bien sûr la Révolution, et Bertin va faire comme tout le monde, il va émigrer. Il va vendre un peu tout ce qu'il avait, toutes ses propriétés de châteaux, ses terres, etc. Et il va se réfugier, ce qui est la Belgique actuellement. Alors Bertin était à Aix-la-Chapelle cherchant une résidence à son gré, lorsqu'il tomba malade de saisissement à la nouvelle de l'arrestation de Louis XVI. Il mourut dans l'ancienne capitale de Charlemagne le 16 septembre 1792, après avoir aidé de ses deniers un grand nombre de ses compatriotes malheureux. Alors, il y a une petite conclusion, quel est cet homme dont la carrière administrative s'échelonne sur 40 années de bons et loyaux services envers l'État français, un portrait en pied par Rollin en 1763, conserve les traits à la postérité, le fronton du cadre étorné d'attributs qui révèlent les préoccupations dominantes du ministre qui ont été choisies d'après ses indications personnelles. Alors, pour terminer rapidement, je dirais que des articles lui furent consacrés dans le bulletin de la Société historique et archéologique de Périgord de 1905 à 1909 par Georges Bussière, je pense. Voilà, j'en ai terminé et je vous souhaite une bonne semaine avec un peu de soleil pour une fois.